7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Direction donc la Syrie, retour à Alep, 3 mois tout juste après la prise de la ville par l'armée syrienne.
Ouais, c'était précisément le 22 décembre, l'armée syrienne et son allié russe délogés ou tués les derniers djihadistes du groupe État islamique et autres milices sous obédience. Alep Est et Alep Ouest étaient de nouveau réunis. Victoire du régime syrien, mais à quel prix pour les civils? Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir Michael.
Alors vous avez pu avec Arthur Gerbeau entrer dans Alep il y a quelques semaines, entrée par la banlieue sud à Ramoussé, exactement, Christian.
Oui, et là, nous avons traversé des quartiers dévastés, comme si un tremblement de terre venait de se produire. Alors, toute la ville n'a pas été détruite, notamment les quartiers ouest, où la vie semble en apparence normale. En revanche, dans le centre historique, les dégâts sont considérables, comme l'explique Mahmoud Abdelkarim, le patron des antiquités syriennes.
Franchement, il y a 30% presque est catastrophique. C'est-à-dire, il y a des bâtiments qui sont totalement rasés, surtout le sud de la citadelle, avec plusieurs bâtiments qui datent à l'époque ayyubite, mamelukite, c'est-à-dire 8 siècles, 7 siècles, sont presque rasés. Le souk connu de la ville d'Alep, au-delà de 60%, soit brûlé, soit détruit aussi. Et donc c'est un vrai défi aujourd'hui, comment on va dans l'étape suivante. Je pense on doit être vigilant, comme Direction Générale des Antiquités des Musées de Syrie, on doit être ferme contre toutes les idées qui visent à déformer l'image de la ville. Nous, on insiste de rendre Alep sa splendeur comme une ville ancienne, pas de nouvelle construction, moderne, absolument pas. Et pour commencer, je pense, avant qu'on parle sur les détails, il faut que le peuple d'Alep revienne à sa ville.
Alors dans Alep, Michael, il n'y a plus de ligne de démarcation, la ville est réunifiée depuis 3 mois. Alors on ne meurt pas de faim, les agences de l'ONU, mais aussi la Russie et l'Iran distribuent dans les rues de la nourriture gratuitement, notamment des sandwichs de falafel. Le problème, c'est que la ville est encore privée d'eau et d'électricité, ce qui n'empêche pas les habitants des quartiers Est, qui étaient tenus par les groupes armés, de commencer à revenir chez eux, constate Georges Kominos, responsable du comité international de la Croix-Rouge pour Alep.
On peut dire en gros qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui sont retournées dans les quartiers, si vous voulez, orientaux de la ville.
Sauf que tout est détruit.
Tout est détruit, je dirais pas. Il y a un niveau de destruction qui est important. La destruction est véritablement de caractère, on peut la caractériser de manière massive. Maintenant, il y a évidemment là où les gens peuvent retourner, c'est quand les immeubles sont certes touchés, affectés, mais encore dans une mesure, une possibilité d'accueillir les familles. Il y a un problème quand même majeur, c'est-à-dire que finalement, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont tout simplement pas le choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir payer un loyer ce côté, ou qui préfèrent évidemment rentrer chez elles, même si l'état du bâtiment dans lequel elles habitent, elles s'abritent, n'est pas parfait. Parce que c'est des bâtiments, évidemment, une fois de plus, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a aucun service de base autour de ça. Donc c'est une situation qui est quand même très, très difficile.
Et il faudra évidemment beaucoup de temps, Christian, pour reconstruire la ville et surtout pour réparer les traumatismes de guerre.
Oui, parce que pas une famille d'Alep n'a été épargnée par les violences. Les gens ont vécu des horreurs pendant 5 ans et la ville est encore sous le choc. Écoutez, Georges Bachoura, ingénieur agronome.
Alep a été changée. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de modifications, beaucoup de changements dans les bâtiments, dans l'état d'esprit des gens. Ça a été autre chose. Ça a été complètement bouleversé, chamboulé. Même la mentalité a été complètement modifiée.
Dans quel sens ?
Négatif, tout à fait négatif. On voit beaucoup de pauvreté, beaucoup d'illettrisme. Il y a moins de services, moins d'électricité. Mais ça fait 2 mois qu'on n'a même pas d'eau. On fait appel à des eaux de puits, à des sociétés avec des citernes. Et comme ça, ils apportent de l'eau à domicile. Même l'électricité, vraiment, c'est une catastrophe.
Et sur le plan moral, vous avez l'impression que les gens sont traumatisés ?
En général, beaucoup, beaucoup. La guerre, c'est pas facile. Hein. Quand on trouve des personnes décapitées, des personnes tuées, c'est normal. La morale tombe. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes amis. Avec des mortiers, des obus lancés d'Alep de l'Est vers notre région, et j'ai perdu beaucoup d'amis. Mais que puis-je faire ? C'est la guerre.
Et malgré toutes ces horreurs, hein, malgré toutes ces difficultés, Christian, bien vous avez trouvé beaucoup de dignité chez tous ces habitants d'Alep.
Oui, les gens ont fait preuve d'une résilience, d'un courage extraordinaire. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur ville a subi une telle épreuve. Je vous propose de rencontrer Lorraine Bakalian. C'est une employée de banque qui est restée à Alep, y compris au moment où les combats faisaient rage.
Là, maintenant, on se trouve à Azizieh, centre-ville, downtown.
Et là, vous étiez proche de la ligne de front, vous étiez un petit peu à l'abri?
Les deux ensemble.
C'est-à-dire que votre immeuble a été touché par des roquettes?
Oui, autour. Dans le quartier ici, tout autour de nous, il y avait toujours des missiles. On a eu des vitres qui se sont cassées 3-4 fois.
Et alors vous, pourquoi vous êtes restée?
Je suis restée parce que j'ai mon boulot et je ne peux pas quitter le boulot. J'ai jamais une garantie d'avoir un boulot ailleurs.
Sauf qu'il y avait des risques énormes ici.
Beaucoup, beaucoup de risques.
Depuis 3 mois, Alep est réunifiée. Les gens soufflent un petit peu?
Oui, on a repris un souffle. Il n'y avait plus de missiles. On marchait très à l'aise dans les rues. Oui, c'est autrement.
Est-ce que les gens, maintenant, ont de l'espoir, reprennent espoir?
Oui, oui. Petit à petit, on doit reprendre le train de vie. Peut-être pas dans une année ou deux années, mais ça doit aller.
Et vous, à la banque, comment vous sentez ça? Il y a plus d'activités, les gens reviennent, comment ça se passe?
Oui, récemment, on a eu des clients qui sont revenus du Liban, du côté de l'Attaqué, de Tartous, pour reprendre leur boulot et puis voir leur compte chez nous.
Alors, vous l'avez entendu, Michael, il y a un petit peu d'espoir, car les Alepins sont des entrepreneurs dans l'âme, mais il faut bien constater que la reconstruction de la ville n'a pas encore commencé. On est encore dans la phase de déblaiement et de l'urgence humanitaire.
Christian Chesneau, de retour d'Alep, assisté à la technique d'Arthur Gerbeau. Merci à tous les deux.
Et après la Syrie, direction le Mexique, Michael, où l'on parle évidemment beaucoup de la politique migratoire américaine.
Et forcément, avec cette menace de Donald Trump d'expulser 2 à 3 millions de migrants sans papier, pour la plupart d'origine mexicaine. Menace qui s'ajoute, vous le savez, à la construction du futur mur. Résultat, véritable climat de peur. Et des deux côtés de la frontière, car on ne le sait pas forcément, mais des dizaines de milliers d'expulsions ont déjà eu lieu sous l'ère Obama. Et le retour au Mexique s'est rarement bien passé. Bonsoir Emmanuel Stills, en direct de Mexico.
Bonsoir Michael.
Alors ces retours au pays se font dans des conditions souvent très difficiles. Et d'abord bien sûr d'un point de vue familial, Emmanuel, avec presque toujours ces mêmes scènes de séparation, famille déchirée des deux côtés de la frontière.
Oui, en effet, il y a de plus en plus de cas de migrants qui ont eu des enfants aux États-Unis. Les parents sont expulsés car ils n'ont pas de papier, malgré le fait que leurs enfants soient des citoyens américains. C'est ce qu'a vécu Julia, une femme de 39 ans qui a été expulsée 4 fois au cours des dernières années, après avoir tenté de rejoindre ses 4 enfants qui sont nés en Californie. À chaque fois, elle a traversé le désert, mais elle a été arrêtée et emprisonnée sous la présidence de Barack Obama. Maintenant, elle se rend compte que la perspective d'une réunion familiale est encore plus improbable. On l'écoute.
Je voudrais que tout soit différent. Voir mes enfants, être avec eux, vivre avec eux. Mais c'est une situation vraiment difficile. On me considère comme une criminelle parce que j'étais simplement en situation illégale. En plus, après avoir été en prison, après avoir traversé plusieurs fois le désert, je me retrouve sans rien. Je suis à bout. Je suis vaincue.
Et à la douleur de la séparation familiale s'ajoute un autre obstacle, Emmanuel, économique, celui-là, retrouver du travail au Mexique.
Oui, c'est ce qui les a poussés à quitter le Mexique 10 ou 20 ans auparavant et c'est la même difficulté à laquelle ils se heurtent au retour. Car les compétences qu'ils ont acquises aux États-Unis ne sont pas mises à profit ici. C'est ce que nous explique Arturo Villaseñor de l'organisation Initiative Citoyenne qui réalise des projets pour la réinsertion des migrants dans la région de Puebla, près de la ville de Mexico.
Beaucoup de migrants ont développé des aptitudes professionnelles aux États-Unis, dans l'industrie ou dans certains types de services, ce qui les amène à se spécialiser dans des domaines très spécifiques qui n'existent pas au Mexique. Combien de techniciens en entretien de piscine faut-il dans une région où il n'y a pas de piscine?
Effectivement, besoin quasi nul. Et quand il s'agit de retour volontaire, car il y en a aussi, est-ce que ça se passe mieux?
Non, car il y a toujours un choc avec une réalité très différente de celle des États-Unis, à commencer par exemple par des salaires qui sont au moins 5 fois supérieurs au salaire américain. Le problème, c'est que les migrants de retour ne se sentent pas accueillis, ne se sentent pas valorisés au Mexique. C'est ce que raconte Maria Elena, qui est revenue en 2009 suite à l'expulsion de son fils aîné. Malgré un solide bagage professionnel aux États-Unis, elle ne trouve pas sa place au Mexique.
Ça n'est pas facile. Par exemple, je n'ai jamais retrouvé de travail ici. La première chose qu'on me demande, c'est ton expérience, celle d'ici. Parce que l'expérience professionnelle que tu as eue là-bas, ça ne compte pas. Toutes les portes se ferment. C'est moche, parce que c'est ton pays, c'est chez toi, mais tu te sens vulnérable. Tu arrives dans ton pays, mais c'est difficile de te réintégrer.
Voilà, se réintégrer dans son propre pays. Merci Emmanuel Stiles, correspondante de France Inter à Mexico. Et Nicolas, à demain.
À demain, Michael.